Bonsoir et bienvenue dans Un Monde Nouveau, le magazine qui dessine le futur. Le 19e siècle était le siècle des empires, le 20e celui des états-nations, le 21e siècle sera celui des villes. Comme l'ancien maire de Denver le prophétisait en 2009 devant la conférence des maires américains, le chercheur Carlos Moreno en est persuadé. Les crises climatiques et sanitaires n'ont pas sonné la fin des villes, au contraire, elles sont plus que jamais l'avenir de l'humanité. Mais comment faire pour réinventer les zones urbaines afin qu'elles puissent répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux du monde nouveau? Le chercheur Carlos Moreno, théoricien de la ville du quart d'heure, est notre premier invité ce soir.
Vous allez voir, l'UTES a vachement changé.
Les bouleversements de notre époque, c'est aussi le thème du dernier film de Bruno Dumont, France, qui sort ce mercredi. Le portrait d'une femme, présentatrice et reporter vedette d'une chaîne d'information en continu, et aussi celui d'un système hyper personnalisé, cynique et malsain.
C'est une attaque de drone. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ?
Super ! C'est ça, la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Il joue le mari de Léa Seydoux dans le film de Bruno Dumont, faussement détaché, sincèrement mélancolique et en quête de sens, lui aussi. Benjamin Biolay chante « Souviens-toi l'été dernier », extrait de son dernier album Grand Prix, en partenariat avec France 1.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, le cœur toujours percé par ta flèche. Un peu sèche, ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, tu n'avais pas bien vu.
Souviens-toi l'été dernier.
Souviens-toi, l'été dernier, extrait de Grand Prix, le dernier album de Benjamin Biolay en partenariat avec France Inter. Benjamin Biolay, que l'on retrouve donc au cinéma en cette rentrée avec Léa Seydoux et Blanche Gardin dans le dernier film de Bruno Dumont, France, qui sort mercredi. Et on en parle ce soir dans Un Monde Nouveau avec le réalisateur qui sera notre invité à 18h40. Mais d'abord, on redescend sur Terre pour se demander à présent à quoi ressembleront les villes de demain. Notre prochain invité y réfléchit depuis des années. Lui qui a été un pionnier du concept de la ville intelligente le reconnaît bien volontiers aujourd'hui. La promesse d'une technologie qui réglerait tous nos problèmes a échoué face à l'immense défi de la crise climatique, doublé aujourd'hui d'une crise sanitaire qui ne sera malheureusement sans doute pas la dernière. Eh bien, la question n'a jamais été aussi urgente. Son nouveau concept, il le veut davantage centré sur l'humain et il promeut aujourd'hui la ville du quart d'heure. Carlos Moreno est directeur scientifique et cofondateur de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation à l'université Panthéon-Sorbonne, où il est professeur associé. Médaille de la prospective 2019 de l'Académie française d'architecture, auteur de deux ouvrages récents parus aux éditions de l'Observatoire, et après Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19, et puis droit de cité de la ville monde à la ville du quart d'heure. Donc bonsoir Carlos Moreno.
Bonsoir Sonia, merci pour l'invitation.
Certains ont pu penser que la crise sanitaire avait sonné la fin des villes. Alors c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de citadins, notamment dans les zones très urbanisées comme Paris, quitter les centres-villes. Mais vous dites non, pas du tout. Au contraire, la ville, c'est plus que jamais l'avenir.
Totalement. C'est une fausse idée et une fausse bonne idée de croire aujourd'hui que la crise sanitaire signifie la mort des villes ou l'exode. Par ailleurs, la crise sanitaire, elle est présente dans beaucoup d'endroits, pas uniquement dans des grandes villes. Il y a même des grandes villes qui sont préservées. Il y a parfois des moyennes villes qui sont très attentes. Il y a parfois des ruralités. N'oublions pas que la crise, il y a un an, a commencé en Italie, à Bergamo, une toute petite ville. Donc, en fait, aujourd'hui, la question qui se pose de la crise sanitaire, c'est comment affronter nos modes de vie, qui sont eux qui sont au cœur de la crise que nous vivons, comme vous l'avez rappelé, une crise climatique d'un côté et une crise sanitaire de l'autre, mais elle reflète tout simplement nos modes de vie qui, aujourd'hui, on nous montre très bien la situation actuelle, et ils ne sont pas durable. On a accepté pendant très longtemps des modes de vie qui sont inacceptables par rapport à nos ressources naturelles, à notre temps et à notre manière de produire, de consommer, de se déplacer.
Alors la ville du quart d'heure, ce concept que vous avez créé, Carlos Moreno, et dont se réclame aujourd'hui notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
La ville du quart d'heure, je l'ai proposée déjà il y a bientôt 6 ans. Vous voyez, donc quand il y avait les grands rendez-vous mondiaux qui étaient la COP21, quand les États devaient discuter sur le climat. Et à ce moment-là, il y avait une discussion souvent très aussi technologique par rapport à comment vivre d'une manière plus décarbonée tout en gardant les mêmes modes de vie pour aller plus vite et pour aller plus loin. Et moi, je posais la question il y a 5 ans de dire si on veut combattre à la racine les émissions de CO2, c'est les villes qui sont les principales émettrices. Et dans les villes, c'est ce qu'on appelait à l'époque les transports, aujourd'hui on appelle les mobilités, qui sont les principaux contributeurs. Donc moi j'ai dit, tout simplement, il faut se questionner pourquoi on se déplace autant. Pourquoi il y a autant de mouvements pendulaires, c'est-à-dire qu'on part d'un point A le matin et on fait une heure et demie jusqu'à un point B, matin et soir, entre 2 et 3 heures. Et c'est ces modes de vie que j'ai voulu donc mettre en question en disant que finalement, et aujourd'hui au XXIe siècle, à l'heure de la technologie, à l'heure du numérique, à l'heure de la création des valeurs qui peuvent prendre des multiples formes, un comportement écologique, c'est d'abord donner à la ville un sens humain, recréer les proximités, pas uniquement de voisinage physique, mais créer la proximité affective, créer la proximité culturelle, créer la proximité par rapport à la santé, créer la proximité par rapport à des gens qui ne se voient pas dans la journée, redonner la possibilité à chacun d'avoir du temps pour la famille, pour les gens qu'on aime, pour les amis. Le monde urbain, depuis 70 ans, a généré une ville très segmentée, très fracturé. On vit à un endroit, on travaille à un autre endroit, on ne voit pas nos enfants le soir parce qu'on arrive, on est fatigué, c'est tard. Et donc aujourd'hui, il faut décloisonner la ville, la rendre transversale, créer une nouvelle urbanité, donner à la vie son sens premier, celui donc de la cité, police, c'est-à-dire où là, où ensemble, on construit quelque chose que nous partageons tous, ce qu'on appelle la vie en commun.
Alors la question des transports, elle est primordiale. Vous faisiez allusion au temps de transport qui se sont considérablement rallongés dans nos vies. Il y a aussi le problème de la qualité du réseau des transports en commun. Et ça, ça ne date pas d'hier.
C'est pas le tout de dire on fait des routes. Automatiquement, il y a d'autant plus de voitures qui circulent, c'est d'autant plus de routes. Et du même coup, les autobus ne roulent plus. Donc il faut dire à un moment ou à un autre, on arrête la circulation automobile dans Paris, ou tout du moins on la freine beaucoup. Et on fait des transports gratuits, nombreux, pour que les gens puissent se déplacer, quoi, sans problème.
Alors, est-ce que la ville du quart d'heure, Carlos Moreno, elle suppose de bannir la voiture des centres urbains, comme est en train de le faire la maire de Paris, Anne Hidalgo ?
Vous savez, la question des voitures, il faut la poser sous l'angle, à quoi sert la ville ? Et qu'est-ce que nous voulons faire dans la ville ? Et dans quelle ville voulons-nous vivre ? Dans des lieux qu'on appelle les hypercentres, c'est-à-dire à très forte densité. Nous travaillons ce qu'on appelle les priorités des mobilités. Dans les hypercentres, où il y a énormément de gens, il y a énormément de services, et ben la priorité, c'est les piétons. La priorité, c'est les mobilités décarbonées, donc les vélos. La priorité, c'est les métros, c'est les bus, c'est les tramways. Et en dernier, la voiture individuelle. Auparavant, il y a effectivement le bus, les transports collectifs, les voitures partagées. Donc, nous luttons contre quelque chose qui s'appelle l'autosolisme, qui est le fait de dire, moi, je roule avec ma voiture tout seul pour un trajet que je pourrais faire autrement. Vous savez que 50% des déplacements en voiture, ils font moins de 5 kilomètres. Et que donc, 25% du déplacement qui sont faits par des gens en voiture, c'est à peu près la ratio de l'Île-de-France, occupe 70% de la voirie que nous avons tous payée, les routes, les trottoirs, etc. Donc aujourd'hui, il s'agit de remettre à sa place le bon endroit. Bien sûr que quand on est dans des régions à très faible densité, là, la voiture aura un rôle. Mais c'est l'autosolisme qui est à mettre en question aujourd'hui, c'est-à-dire, moi, la liberté, c'est conduire mon voiture. Ces temps sont révolus.
Comment vous faites pour rétablir cette proximité, cette vie de quartier que vous appelez de vos voeux, alors que on voit bien que de plus en plus de Parisiens, et notamment des familles, sont contraints de quitter la capitale et de quitter les hypercentres parce que c'est trop cher de s'y loger?
C'est une excellente question qui nous ramène au cœur de la problématique et de la proximité qui est posée par la ville des quarts d'heure. Nous avons 6 choses essentielles à mener pour tous et chacun. Habiter dans des conditions dignes, accéder à des manières de travailler qui mélangent la proximité et les travail à distance et n'est allé au bureau que quand il le faut. Nous avons besoin d'accéder à nos courses, à nos circuits courts. Nous avons besoin d'accéder à la santé. Nous avons besoin d'accéder à l'éducation et à la culture et d'avoir des loisirs dans une ville dans laquelle il y a de la nature, dans laquelle il y a de l'eau. Ce qu'on appelle les 6 fonctions sociales urbaines essentielles. Mais ça n'a pas de sens, chère Sonia Kurnin, que si en même temps la ville a une politique urbaine cohérente basée sur les biens communs. Les biens communs, vous savez, c'est une prix Nobel, c'est une femme. La première prix Nobel, femme d'économie, Eleanor Ostrom, en 2009. Elle a eu les prix Nobel parce qu'elle a développé quelque chose qui s'appelle « gouverner par les communs ». Gouverner par les communs, c'est prendre l'essence de l'intérêt général, que ça soit des ressources matérielles ou immatérielles, publiques ou privées. On les soustrait de l'économie du marché, on les soustrait de la financiarisation, on les soustrait de la spéculation pour les mettre au service de tout le monde. Donc, dans la ville, la gouvernance locale qui pratique la ville des quarts d'heure, qui pratique l'écologie, la proximité, la solidarité, la participation citoyenne, vient s'emparer également de cette notion de commun pour lesquels, par exemple, les logements doivent répondre à des critères, donc ce qu'on appelle les logements sociaux. On doit également, donc comme c'est le cas à Paris, avoir des sociétés d'économie mixte comme la SEMA Est à Paris, qui achètent des mètres carrés et qui les met en location, en dehors de l'économie des marchés spéculatifs, pour installer des librairies, des salles d'exposition, des ressourceries. Et donc, le logement, aujourd'hui, est au cœur des nouvelles politiques urbaines sur la ville des quarts d'heure, dans lesquelles on vient réaménager par cette notion donc de loyer régulé, on lutte contre la spéculation immobilière. Et là, la ville elle a un rôle à jouer pour offrir pas uniquement le logement, mais pour offrir ce que j'appelle les droits des cités. Pendant trop longtemps, on a axé uniquement la problématique urbaine sur le droit au logement. Mmh. C'est pas ça qui fait aujourd'hui la qualité des vies. Ce qui fait la qualité des vies, c'est le droit à la vie dans la ville. C'est-à-dire que je loge quelque part, mais que j'accède aussi aux services que j'ai évoqués tout à l'heure. Que je peux faire mes courses, que je peux aller chez le médecin, que je peux aller dans une salle de théâtre, une salle de cinéma, et que je peux retrouver dans une proximité un espace public qui est le cœur de la démocratie, parce que c'est l'endroit où les gens se retrouvent, quelles qu'elles soient leurs conditions.
Alors ce concept, il n'est pas seulement applicable aux grandes métropoles, il ne concerne pas seulement les Parisiens et les habitants des grandes villes, vous le déclinez aussi pour les bassins de moyenne et de faible densité, en territoire de la demi-heure, c'est le même principe ?
Absolument, c'est exactement le même principe, c'est un concept que nous avons avec mon équipe de recherche opposée et que le niveau mondial aujourd'hui a pris beaucoup d'essor, avec l'engagement de la maire de Paris, le réseau mondial des villes qui s'appelle les C40, qui aujourd'hui donc a essaimé dans le monde entier, mais nous avons voulu aussi très très tôt offrir ces nouvelles proximités dans les territoires à moyenne densité et à faible densité. Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est la manière d'avoir une mobilité. Quand on doit faire 20 km, 30 km...
On a besoin d'une voiture.
On a besoin d'une voiture. Mmh. On ne peut pas demander à tout le monde d'aller en vélo. Donc, nous ne sommes pas des jusqu'aboutistes des vélos. Je l'ai dit, les mobilités, il faut les utiliser là où il faut, au bon moment, mmh. avec la bonne priorité. Par contre, donc, nous offrons ce que nous appelons donc, des territoires à moyenne et faible densité de population et à haute densité de multiservices. Que chacun ait accès à la santé à 15 minutes ou à 20 minutes au plus tard dès l'endroit où nous sommes. Que chacun accède à la culture, à l'éducation et aux loisirs.
On a vu aussi depuis cette crise sanitaire que les villes moyennes devenaient plus attractives pour un certain nombre d'habitants des grandes villes et notamment les Parisiens. L'avenir, c'est la mégalopole ou c'est la ville moyenne ?
C'est une très bonne question dans laquelle il n'y a pas de réponse absolue sur l'avenir. Parce que, ce que j'ai dit dans mon livre, vous l'avez rappelé, nous vivons dans les siècles des villes et aujourd'hui c'est factuel. Donc nous n'avons pas en France des mégalopoles. La plus grande concentration urbaine, c'est la région Île-de-France avec presque donc 9 millions d'habitants, mais on a également ces bassins comme Nantes, ces bassins comme Bordeaux, ces bassins comme Toulouse, Rennes, dans lesquels ce qu'on appelle la ville moyenne en France représente une bonne qualité de vie qui a une attractivité parce qu'il y a cette capacité à réhumaniser la ville de manière plus forte. Mais ce qui est important, quand on est dans une ville comme Nantes, Rennes, Bordeaux ou Toulouse, c'est que les problématiques de la manière de vivre nous permettent de générer une alliance entre le centre-ville et les territoires. Il ne faut pas qu'on se retrouve à une autre échelle, parce que je peux vous donner les noms des villes moyennes dans lesquelles il fait bien vivre, mais dans lesquelles il y a au moins pour 40 minutes tous les matins pour faire le tour des périphériques pour rejoindre mon lieu de travail. Donc nous voulons tout simplement, quelle que soit la taille de la ville, rendre la ville polycentrique, donc multiples centres, et la rendre à une échelle humaine, beaucoup de services à disposition pour tous et chacun.
Depuis le mois de juin, vous co-présidez, Carlos Moreno, le réseau scientifique et technique sur les architectures en milieux extrêmes au ministère de la Culture. Alors les milieux extrêmes, j'ai vu, c'est l'espace, les planètes du système solaire, les océans, la haute montagne, les déserts. L'idée, c'est de se préparer à l'apocalypse ?
Non, c'est que les architectures extrêmes, chers Sonia, nous y sommes aujourd'hui. Quand vous avez des dômes de chaleur dans le monde entier, y compris chez nous, quand nous avons des températures extrêmes, quand nous avons l'élément des orages violents, quand vous avez des villes qui sont inondées dans les rues dans lesquelles les voitures flottent, nous sommes déjà dans des situations extrêmes. Nos architectures représentent notre manière de vivre, nos modes de vivre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de rendre réversible le changement climatique. Il est aujourd'hui irréversible. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'adaptation.
Donc il faut changer notre manière de construire les maisons et les appartements.
Il faut changer notre mode de construire nos maisons et appartements. Et surtout, il faut changer notre mode de vie à nous.
Dernière question, Carlos Moreno. Quel est selon vous l'objet du futur ou celui qui manque au futur ?
Il nous manque de la bienveillance. Il nous manque de la fraternité. On est dans un monde dans lequel il y a une violence extrême. Donc je rêve du portique à fraternité, du portique à bienveillance, pour que l'âme de l'homme tombe du bon côté. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on retrouve le côté obscur de l'homme Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin de cette fraternité, de cette bienveillance qui nous échappe tant et qui est liée plutôt à notre esprit et pas tellement à la quantité des choses que nous avons construites.
Merci beaucoup, Carlos Moreno, auteur donc de La ville, monde à la ville du quart d'heure aux éditions de l'Observatoire.
Merci Sonia pour cette invitation, c'est un plaisir. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. It left so many RIP. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. Terrified, paranoid, I put you over everything. To fill the void, and when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything. To fill the void, and when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Bright lights pass me in the city, it's emergency. I'm thankful cause I made it past my 30s, no one murdered me. Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me. I'm petrified but moving like I got no sense of urgency. Pride make a nigga act way harder than he really be. Pride hide the shame of city, cut off all utilities. Pride hide the pain of growing up inhaling poverty. Pride make a nigga feel a way that you won't follow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby mama make shit harder than it gotta be. Make you have to take the bitch to court to see a prodigy. Make you have to use your last resort and pull a robbery. Pride be the reason for the family dichotomy. Got uncles and some aunties that's too proud to give apology. Slowly realizing what the root of all my problems be. It got me feeling different when somebody said they proud of me. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many RIP. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything. To fill the void, and when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything. To fill the void, and when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Much money to count, what's the amount? 10 of a bounce. I gotta pay a nigga to add it up, then pay somebody to make sure whatever amount he said, I'm bagging up. Got racks on racks, I'm racking up, stacking up. You reaching, I'm acting up.
Break it down, weigh it up, not bagging up. Make a five of mine, that's regular. Nigga playing with us, that's negative. Go back to start, that's never. I'ma boss my closet leather. Ain't no off days on my schedule. Long as I live, we live forever. Told my twin and shit get better. These niggas that slip, let me ahead 'em. Got my feet up, I pay 70 bands to have sense on the jet. I don't need them, that shit in the past. I'm feeling like what's next. Got my speed up, foot all on the gas. Just not a CA vet. I can beat them. I believe in me, just tell me what's the bet. All my pride gone, had to lose it all, then I got rich. I own 5 homes, glad some of this shit starting to make sense. I'm staying hella focused, and I can't forget the bigger picture. I can't even hold you, I didn't have shit, I won't forget it. Will I be destroyed? Come to me with everything, it's starting to get annoying. I'm addicted to promethazine, it's crazy, I know it. All this money coming in, it drive me crazy, not destroy it. I'll be crazy if I blow it.
Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many RIP. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil.
Pride is the Devil, J. Cole avec Lil Albi, septième titre de l'album de J. Cole's Off Season, sorti en mai dernier en partenariat avec France Inter.
Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Joseph Gaune, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des rédactions de Vanity Fair. Et Blaise Mao, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Ouzbek Erika. On commence avec vous, Joseph. Quand le monde ancien continue d'inspirer le monde nouveau, il y a quelques jours, Netflix diffusait les premières images de la saison 5 de The Crown, qui sera diffusée l'année prochaine, portant l'excitation des fans à son
absolument
maximum. Et la figure la plus attachante de cette saga, c'est bien sûr Lady Diana, la princesse qui, près de 24 ans après sa mort, est toujours aussi moderne.
Oui, elle est toujours aussi moderne. C'est assez étonnant de voir l'engouement toujours sur les réseaux sociaux, vraiment un peu partout pour cette figure. Alors, je me suis demandé effectivement pourquoi elle était toujours aussi moderne. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, Diana est très présente par la dramaturgie qui a tout le temps présidé à sa vie, le mariage, la séparation, le divorce, jusqu'au bout, même toutes ses prestations à la télé, etc. C'est vraiment une vie qui a été dramatique d'un bout à l'autre, une vie courte, mais une vie qui a été dramatique d'un bout à l'autre. Ensuite, surtout, elle n'a jamais été remplacée, en fait, quand on regarde bien, même si aujourd'hui il y a Meghan Markle, etc. Quand même, cette figure-là, la figure de Diana, n'a jamais été vraiment remplacée parce qu'elle symbolisait aussi quelque chose à ce moment-là dans son époque. C'était quelqu'un d'un peu inédit dans ce dispositif. On le voit d'ailleurs dans The Crown, c'est-à-dire que quand elle surgit dans la série, en fait, c'est un personnage vraiment différent des autres qui s'installe et qui accapare un peu le paysage. Et puis surtout, je trouve qu'elle conserve une attitude très innocente. C'est une figure qui, lorsqu'elle est au milieu de son petit monde, de ce petit monde de la royauté, est vraiment très différente, très distanciée. C'est une figure presque un peu rock, en fait. Une figure pop, en tout cas, un peu à l'image de ces grandes figures disparues très jeunes, qu'ont été, évidemment, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ou encore Kurt Cobain.
Et que dit-elle de notre monde actuel et de son futur ?
Je crois qu'elle symbolise tout d'abord un élan vers la liberté. C'est-à-dire, quand on la voit, quand on voit ce qu'elle a été dans ce monde-là, c'est quelqu'un qui a toujours œuvrer pour sa propre liberté et le fait que sa parole soit prise en compte, sa parole en tant qu'individu et non pas sa parole diluée dans le protocole, même si effectivement elle était dans le protocole, mais quand même, elle raconte aussi que dans un monde très formaté, très cadré, comme la royauté évidemment, et on peut étendre, la royauté n'est qu'une métaphore des mondes dans lesquels nous vivons les uns les autres, mais en fait il est possible d'exister, c'est possible d'avoir une parole, c'est possible de se distinguer par rapport à la hiérarchie, sans avoir non plus à déployer des montagnes de pensées théoriques ou d'actions, etc., juste en étant soi, quelque part, et en assumant une forme un peu, je dirais, de simplicité, parce que quand on regarde même son style et les images beaucoup qui sont reprises d'elle aujourd'hui, c'est finalement quelqu'un dont on peut être proche. Je crois aussi qu'elle raconte quelque chose sur la célébrité. C'est vraiment le premier exemple de cette célébrité qu'on a connue avec la télé-réalité, aujourd'hui avec les influenceuses et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ça qu'elle raconte sur notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire la façon d'être libre et d'utiliser la médiatisation et la célébrité pour ce qu'elle est. Et pour ce qu'elle peut apporter.
Un modèle donc pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, mais n'est pas Lady Di qui veut. Merci Absolument. Beaucoup, Joseph. Je rappelle ce numéro collector de l'été de Vanity Fair concernant Lady Diana, le roman d'une vie royale. Merci, Joseph. Merci. De médiatisation sans limite, il est également question dans votre chronique ce soir, Blaise Mao, journaliste à Uzbek Erika, puisque vous nous dites ce soir que diffuser de la publicité dans l'espace, ça sera bientôt possible.
Good work, Starship. Hey, how about a Pepsi?
Oui, alors je ne sais pas si vous en rêviez,
non,
mais en tout cas, une start-up canadienne l'a fait, ou plus exactement, est sur le point de le faire. En fait, la start-up s'appelle Geometric Energy Corporation. Ils se sont associés avec SpaceX, donc l'entreprise fondée par l'incontournable Elon Musk, et qui est aujourd'hui un géant donc du privé du secteur spatial. Et ils vont mettre sur orbite en fait un petit satellite publicitaire qui va être équipé d'un écran pixelisé sur lequel s'afficheront les messages publicitaires. Donc, et détail très important, le satellite sera aussi équipé d'une perche à selfie.
Ah bah oui, ça manquait.
Pour pouvoir diffuser en direct depuis là-haut les publicités sur YouTube, sur Twitch, sur les plateformes, pour qu'on puisse tous en profiter. Voilà. Et donc le lancement est prévu pour 2022, mais l'annonce a été faite là parce que les espaces publicitaires sont d'ores et déjà en vente.
Et c'est ouvert à tous ? Je peux acheter un espace si j'ai envie ?
Alors oui, a priori, théoriquement, c'est possible. C'est ouvert à tous. On peut être une entreprise, un publicitaire, un artiste. Ce qu'il faut, c'est acquérir donc les pixels de l'écran du satellite via un système de jetons. Donc, dans le jargon des crypto-monnaies, on parle de token. Le PDG de Geometric a dit « J'essaie de créer quelque chose qui va démocratiser l'accès à l'espace. » Donc, le prix d'achat des encarts n'a pas été communiqué. Mais d'après les premières estimations de certains experts, on serait sur des sommes avec 6 zéros à la fin.
Oui, quand même.
Je cite Samuel Reed, donc le PDG de cette start-up. Certaines entreprises voudront certainement mettre en valeur leur logo ou créer quelque chose de plus personnel, plus artistique. Et peut-être que Coca-Cola et Pepsi lutteront pour mettre en valeur leur image. Alors, c'est pas un hasard si notre ami Samuel Reed cite Pepsi, puisqu'en 96, l'entreprise américaine avait déjà payé 5 millions de dollars pour qu'un cosmonaute fasse flotter une réplique de canette de Pepsi à l'extérieur de la station spatiale russe.
Pepsi, the choice of a new generation.
Ah oui, en 1996, alors ce projet canadien n'est pas vraiment pionnier. Des entreprises ont déjà projeté des pubs dans l'espace ?
Alors en fait, il y a déjà des entreprises qui ont été dans l'espace avec ce qu'on appelle de la publicité non intrusive en fait. Par exemple, Pizza Hut en 2001 avait livré une pizza au salami dans la station spatiale internationale.
Ah,
c'est
oui.
Un coup de com, on va dire un peu majestueux. Donc ça fait ça, c'est depuis voilà milieu des années 90 que les entreprises ont investi l'espace. Mais là, on parle de non intrusif. On en profite pas entre guillemets sur Terre, ça ne se voit pas.
Des voix critiques se sont fait entendre dès l'annonce du projet de collaboration avec SpaceX. Sur quelle base? Qu'est-ce qu'on reproche exactement?
Il y a deux reproches qui remontent le plus souvent, la pollution spatiale et la pollution lumineuse. Mmh. La pollution spatiale, en fait, on parle de la production de micro-déchets en orbite. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de millions déjà de micro-objets qui gravitent autour de la Terre, certains qui font plusieurs centimètres de taille. Et puis la pollution lumineuse, c'est notamment l'association Dark Sky International qui a dénoncé la lumière nécessaire à l'affichage de publicité dans l'espace qui pourrait nuire en fait à l'observation du ciel spatial par les astrophysiciens, par les scientifiques. Donc on peut imaginer aussi qu'à un moment, eux, ils vont râler, ils vont gueuler pour dire on veut pas de pub dans l'espace pour pouvoir justement bosser. Mais notre ami Samuel Reed, toujours lui, donc le PDG de la start-up canadienne, a tout prévu puisqu'il a dit que je ne prévois pas de publicité spatiale envahissante. L'invisibilité de tout ce que Geometric, donc son entreprise, fait dans l'espace est une priorité à 100%. Nous ne compromettrons jamais l'astronomie au sol ou la liberté des citoyens du monde entier à un ciel nocturne sans pollution lumineuse.
Et rendez-vous en 2022 pour voir s'il aura effectivement l'opportunité de tenir sa promesse. Merci Blaise Mao, journaliste à Ouzbek Erika. Et merci à vous, Joseph Ghosn, directeur des rédactions de Vanity Fair. Qu'il nous parle de Jeanne d'Arc, Camille Claudel ou des gens du Nord, sa terre natale qu'il a filmé dans la vie de Jésus, Maloute ou Petit Quinquin, Bruno Dumont aime explorer l'âme humaine, toujours en clair-obscur. Dans son dernier film qui sort mercredi, France, Léa Seydoux est une héroïne contemporaine, vedette de la télévision où le journalisme ne sert qu'à mettre en scène sa gloire personnelle. Elle va peu à peu entrer en crise existentielle après un événement qui va lui faire prendre conscience de la vacuité de ce système dans lequel elle évolue. Bonsoir Bruno Dumont.
Bonsoir.
Avant d'être un réalisateur multiprimé, caméra d'or à Cannes en 97 pour votre premier long métrage La vie de Jésus, deux fois grand prix du jury pour l'humanité et pour Flandre, vous avez été dans une première vie prof de philosophie. Sommes-nous responsables de l'avenir? C'était un des sujets du bac philo cette année. Et puisque cette émission s'intitule Monde nouveau et que votre dernier film, contrairement au précédent, explore l'époque contemporaine, j'avais envie de vous demander, pour commencer Bruno Dumont, est-ce que vous vous sentez, vous, responsable de l'avenir? Est-ce qu'en tant que réalisateur, vous pensez avoir un rôle à jouer dans la construction de ce monde nouveau?
Mais je pense bien. Je pense bien. Je pense que le cinéma doit mettre sa petite pierre et qu'il est très, très utile à nous éveiller, à nous éclairer dans un monde qui est un petit peu étroit, un peu fermé. Et je pense que l'art est important. Je suis très sévère sur le divertissement, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous aliène, finalement. Alors que quand le divertissement allait de pair avec la tragédie, par exemple, on était bien équilibré. Je pense qu'on n'est plus bien équilibré à tout divertir.
Le réalisateur Bruno Dumont, invité d'Un Monde Nouveau ce soir pour nous parler de son dernier film France qui sort mercredi. La musique magnifique du film est signée Christophe, le chanteur et compositeur disparu l'an dernier. Vous aviez déjà collaboré avec lui, Bruno Dumont, pour Jeanne. C'était en 2019.
Voilà. Et donc ça, c'est la musique de Jeanne.
Avec ce titre, Oh mon Dieu, qu'on va écouter.
Pardonnez-moi, pardonnez-nous à tous le mal que sais bien que j'ai bien fait de vous servir. Nous avons bien fait de vous servir ainsi.
Christophe, oh mon Dieu, extrait de la bande originale de Jeanne, le film de Bruno Dumont sorti en 2019. Christophe qui a également composé la musique de votre dernier film, donc qui sort mercredi, Bruno Dumont, France. Il est parti juste après avoir finalisé la bande originale du film. Immense et inclassable artiste. Vous étiez trouvés tous les deux?
Ah oui, ça c'est le cas de le dire. Oui, on s'est vraiment trouvés. On a vraiment... Moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et on est devenus amis, donc c'est assez rigolo de devenir ami à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous admirez. Et donc on a travaillé sur Jeanne et on s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit qu'on allait faire le suivant. Et donc il a travaillé sur France et il a apporté vraiment de la lumière, un éclat, un romantisme que le film n'a pas toujours. Et donc ça lui donne une poussée tout à fait extraordinaire dans un registre qu'il n'a pas forcément. Le film est parfois drôle, d'ailleurs. Mmh. On pleure pas mal. Et lui, là, il donne une pousse. Oui, il donne même un éclairage, je trouve, depuis le début du film sur France, alors qu'elle va traverser pas mal de zones d'ombre. Et elle est toujours, en fait, illuminée par Christophe.
L'ombre et la lumière qui composent ce film France, présenté en sélection officielle à Cannes et qui sort donc après-demain. Une critique... acerbe, une satire du système médiatique. France demeure, incarnée par Léa Seydoux, est donc une journaliste star de l'information en continu, obsédée par son image, qui n'a de cesse de se mettre en scène dans une hyper-personnalisation, y compris de façon obscène, quand elle interroge Emmanuel Macron en conférence de presse, puisque vous avez eu l'autorisation exceptionnelle de tourner à l'Élysée, quand elle couvre sur le terrain des conflits armés ou qu'elle filme des migrants qui traversent la Méditerranée. Elle semble orchestrer la détresse du monde comme un spectacle qui n'est là que pour la valoriser. C'est vraiment l'image que vous avez des journalistes télé, celle d'un système où le cynisme absolu règne en maître, Bruno Dumont.
Tout à fait, oui. Mmh. Je ne fais que... Une satire, en fait, on appuie un peu pour rendre ça plus clair. Mmh. Mais la clarté que je donne, c'est la clarté de la réalité. Donc c'est pas parce que c'est une satire que c'est faux. C'est autant plus vrai. Je pense que ça met en exergue, en fin de compte, les travers d'un monde médiatique qui est parti en vrille, je pense. C'est-à-dire qu'il y a, à la fois, il y a du bien, il y a des gens très bien, je le sais tout à fait, mais je pense qu'il y a quand même une espèce de sclérose qui s'est faite et les gens sont à moitié fous, quoi. Une espèce de démence numérique, une simplification du réel, tout est aplati, la complexité du réel a totalement disparu. Et donc, on voit toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont, on voit toujours cette espèce de monde un peu de fou, quoi. Et donc, je suis assez sévère, oui. Mais je pense que je suis sévère, mais d'une façon constructive. Je pense qu'il faut être critique. Les journalistes sont assez critiques sur le monde et sur les autres qu'on puisse se permettre de leur renvoyer la balle. Et donc le film fait ce travail-là qui est tout à fait utile, je pense.
Cette mécanique bien huilée va commencer à craquer, à s'enrayer après un banal accident de la route. Elle va renverser un jeune homme d'origine modeste en scooter et à partir de là, eh bien, on sent un effondrement intérieur en elle. Elle remet tout en question, elle déprime, elle est en crise, elle redevient humaine.
Mais je pense que tout journaliste devrait avoir le même transport et le même travers, c'est-à-dire ce conflit entre... un métier qui est très noble, qui consiste à rapporter la vérité, et ses obligations de rendement, d'audience, qui pervertit totalement cette noble fonction, ça doit rendre fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément des questions, des dilemmes absolument. C'est vraiment un sujet cornélien. Donc ce que fait France, c'est qu'en même temps, elle est ça, puisqu'elle est une vedette de ce système-là, mais elle en prend conscience. Et quand elle en prend conscience, elle craque. Mmh. Donc elle s'éveille finalement dans une aliénation dont elle fait partie. Mais moi, je cherche la lumière, donc elle s'illumine finalement. Je pense qu'elle prend conscience de ce qu'elle est, et elle cherche une voie. Et la voie, c'est pas la sainteté, c'est pas devenir Mère Teresa, pas du tout. C'est simplement essayer de bien faire son travail.
On écoute la bande-annonce.
Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ?
J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd.
C'est une attaque de drone !
Oh,
vas-y, viens ! On y va, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, à moi !
Des civils, des enfants, des hommes, des femmes.
Alors ?
Super, regardez. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. France.
Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène ?
Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme.
Action !
Alice-la !
Coupez !
J'ai l'impression d'avoir une mission.
Génial ! Talent qu'elle a, cette fille.
Vous savez tout, c'était formidable.
Formidable ? C'était formidable de pas mourir ?
Vous les journalistes, on change rapport. Vous courez après l'audimat.
Et donc ?
Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles.
Ça va aller, ma puce, on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe.
Je ne supporte plus le regard des gens.
Les gens vont te détester, puis t'adorer, c'est la même chose.
Je ne supporte plus mon mari.
C'est pas ton argent, c'est notre argent.
Je gagne 5 fois plus que toi.
Ça explose.
Mais putain, mais merde, mais...
C'est génial.
Tout ce théâtre est con.
C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de debout.
J'en crevais de ce métier, tu sais.
Elle pleure la France maintenant.
Cette célébrité s'y démonte.
C'est ça la télé, crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.
France, le dernier film de Bruno Dumont qui sort mercredi. Ce système que vous mettez à jour dans le film Bruno Dumont, c'est aussi celui des réseaux sociaux, du culte de l'instantanéité, du buzz à travers le personnage, on l'a entendu dans la bande-annonce, de Blanche Gardin qui joue Lou, l'assistante de la star, qui scrute comme ça en permanence les réactions sur les réseaux sociaux et qui dit à France pour la rassurer quand elle est critiquée, mais c'est génial, les gens vont te traîner dans la boue, c'est ça la télé.
Alors elle, c'est vraiment celle qui a pris la forme de sa fonction, c'est-à-dire qu'elle est totalement pleine et elle déborde de ce système. Et c'est quelqu'un de très intelligent, c'est-à-dire qu'il y a, moi ce qui me frappe le plus dans ce milieu-là, c'est l'intelligence qu'il y a derrière tout ça, à abêtir souvent les gens, à les rendre idiots, et c'est pas fait par des idiots en fait. Alors soit il y a des idiots parce qu'on choisit de mettre un idiot devant à l'image, mais derrière il y a quelqu'un de très intelligent qui a choisi de mettre un idiot devant parce que c'est mieux d'avoir quelqu'un de qui se pose pas de questions. Et Blanche Gardin, elle joue ça avec beaucoup d'humour parce que c'est très drôle. D'abord c'est très drôle.
Elle est très drôle.
C'est drôle parce que c'est bête. Et moi je trouve ça très drôle. Donc ce qui l'intéresse toujours, c'est effectivement, et elle dit cette phrase absolument incroyable, le pire c'est le mieux. C'est-à-dire que plus c'est catastrophique, mieux c'est, en fait. Parce que ça va tirer du... Il va y avoir de l'audience, il va y avoir du monde. Et donc, il y a une espèce de délire, une espèce de folie, c'est-à-dire, on mélange tout, et quand elle voit des migrants perdus en pleine mer, bah, c'est beau. C'est-à-dire que ça finit par être magnifique. Donc, elle devient folle, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une démence, c'est-à-dire que plus il y a de monde qui regarde, mieux c'est. Alors c'est idiot, c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est bien. Donc c'est cette folie-là, et c'est une folie à la fois esthétique, morale, intellectuelle, politique, que je m'amuse à satiriser.
Ce film, il est plus généralement une réflexion sur le monde de l'image et des apparences. Le mari de France, on n'en a pas encore parlé, incarné par Benjamin Biolay, est un écrivain en manque de succès. Alors son couple bat de l'aile et alors elle va aller chercher de l'affection auprès d'un homme qu'elle va rencontrer dans un lieu autre. Mais là encore, les apparences sont trompeuses.
Alors là oui, c'est un homme châtré par sa femme, quoi. C'est-à-dire que la puissance de sa femme a châtré l'homme. Donc elle cherche l'amour et elle va être mystifiée par un autre homme finalement. Donc sa quête est désespérée parce qu'elle est tellement dans la lumière qu'elle ne supporte pas l'ombre et elle a un besoin éperdu d'être aimée finalement comme tout à chacun et elle n'arrive pas à être aimée.
Et comme beaucoup de vos personnages, cette héroïne, Bruno Dumont, elle cherche une grâce, un sens introuvable. Elle est à la fois dedans et en dehors du système. Elle porte une complexité, une ambiguïté que nous portons tous. C'est ça que vous voulez nous dire aussi. Il faut accepter notre ambiguïté. Elle fait partie de nous.
Voilà. Pense que la grâce, elle est dans notre ambiguïté. Il ne faut pas chercher... faut pas mettre l'agneau sur son épaule ou chercher l'étoile dans le ciel. Je pense que la grâce, elle se trouve là où on est, finalement, tout simplement. Et là où on se trouve, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on suffit de s'élever un petit peu. Et le film raconte ça. Finalement, elle va trouver une forme d'élévation à la fin. Alors, c'est tout petit, c'est pas grandiose, mais ça monte un peu quand même.
Qu'il soit grinçant ou loufoque, vous avez commencé à introduire cette petite dimension humoristique dont on parlait en 2014 avec votre série à succès, critique et public, Petit Quinquin, pour Arte. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Une femme âgée de 15-5 ans, sans tête.
Il faut la tête, Carpentier.
National quand même, donc une enquête là, c'est du sérieux. Parce que là, il y a quand même plusieurs morts, donc...
Une minute de silence là derrière, s'il vous plaît.
Il est passé un vol, commandant.
Comment on l'appelle?
Non.
Le brouillard.
Extrait de la bande-annonce de Petit Quinquin, cette mini-série que vous aviez réalisée pour Arte en 2014, Bruno Dumont. Vous avez envie aujourd'hui de plus de comédie?
Ce que j'aime bien, je pense que ce que j'aime bien dans le grotesque, c'est que ça grossit, donc ça fait voir mieux en fait. Donc c'est ça qui me plaît, c'est que j'aime pas trop en fait les choses un peu étroites, un peu fermées, qu'il faut difficile à comprendre. Moi, je pense qu'il faut être clair. Et la satire, par exemple, ou le rire. Moi, j'aime beaucoup le rire parce que je trouve que c'est vraiment l'esprit de l'intelligence. Si on rit, c'est que c'est drôle, et si c'est drôle, c'est que c'est intelligent. Enfin, qu'il y a une forme de compréhension, en tout cas, dans l'ironie. Donc, j'essaie de passer par le comique parce que j'aime pas trop non plus me prendre la tête et qu'on se prenne trop la tête. En fait, je pense que le monde est complexe, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de complexité, qu'on parlait d'ambiguïté. Mais il faut nous aider à le rendre simple. Et le rire, par exemple, c'est une façon aussi de... Et puis rire de soi, c'est quand même énorme, quoi.
France, ça sort mercredi, le dernier film de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay. Et la musique magnifique de Christophe. On va terminer, Bruno Dumont, avec un exemple de conviction qui a changé le réel à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre. On vous a proposé de choisir un livre et de nous le présenter ce soir. Quel livre avez-vous choisi, Bruno Dumont ?
Alors, c'est le dernier livre qu'a écrit Georges Bernanos, qui s'appelle Monsieur Wynne, qui est un livre que j'ai dû lire, je pense, deux fois, auquel j'ai jamais rien compris. Et là, il parlait du brouillard, on disait que le commandant l'appelait le brouillard, et c'est vraiment le brouillard, c'est-à-dire c'est un auteur magistral, et donc qui sous des formes assez simples, c'est-à-dire c'est une histoire qui se passe dans le Nord, etc., une espèce d'intrigue policière, mais dans laquelle on se perd, et j'ai toujours trouvé... Donc c'est un livre que je comprends pas, tout simplement.
Et donc il faut relire, encore.
Je sais pas, non, je pense que se buter un peu contre le mystère des choses est assez intéressant, et il faut laisser le mystère être mystérieux.
Eh ben on va s'arrêter sur ce mystère-là. Merci beaucoup Bruno Dumont d'avoir été l'invité d'Un Monde Nouveau ce soir. Un Monde Nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir, Sofiane Aktib. Un Monde Nouveau, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain, et après le journal de 19h, vous avez rendez-vous avec Le Téléphone Sonne, présenté par Éric Delvaux. Ce soir, comment lutter contre les trafics de drogue.